Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 9 novembre et on est bien là sur Terre. This is ground control to Major Tom.
You've really made the grade. Et le Major Tom, en l'occurrence, c'est Thomas Pesquet, de retour sur la planète Terre depuis une vingtaine de minutes maintenant. La capsule spatiale qui le ramène de l'espace à Améry sans problème au large de la Floride. C'est l'épilogue de 6 mois de mission en orbite dans la Station Spatiale Internationale. Vous imaginez, 6 mois, Omblin, dans une boîte de conserve, il faut un sacré mental. Comment va Thomas Pesquet? Eh bien, on va aller aux États-Unis prendre des nouvelles dans un instant dans le journal. Nous irons aussi à Cologne, au Centre Européen des Astronautes. Et puis à 6h10, nous serons en ligne avec l'astrophysicien François Forget. Elle est le joyau du musée du Louvre, le tableau le plus célèbre au monde.
La Joconde, bien sûr, mais ce n'est pas de la véritable Mona Lisa dont on va parler ce matin, plutôt d'une reproduction, mais pas n'importe laquelle, une copie jugée exceptionnelle par les experts, peinte un siècle après celle de Léonard de Vinci. Le regard, le sourire, le positionnement des mains, cette Mona Lisa-là ressemble à s'y méprendre à l'original et elle sera mise aux enchères aujourd'hui par Arcurial à Paris. Il existe d'autres copies de la Joconde. En quoi celle-ci est remarquable et vendre aux enchères la copie d'un chef-d'œuvre? Est-ce que ce n'est pas faire la promotion d'une contrefaçon? Nous poserons ces questions à Mathieu Fournier, expert du département maîtres anciens et du 19e siècle, directeur associé Arcurial.
Rendez-vous donc à 5h40. Juste après, Nicolas Caro va nous parler de la légende Françoise Sagan et de la publication de Lettres inédites. Et puis on terminera en musique avec votre partition, Omblin.
Il vient de triompher sur la scène de l'Alcazar à Marseille et tente sa chance à Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Les débuts d'Yves Montand sur la scène du Music Hall dans les années 40 grâce à Edith Piaf, la partition à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme et on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Il me semble que les températures vont encore baisser aujourd'hui.
Ah, vous l'avez senti hein, ce matin, il fait beaucoup plus froid, oui c'est vrai. Alors ce matin il va falloir prévoir le grattoir ou la boîte à CD ou enfin le truc avec quoi vous grattez le pare-brise.
La boîte à CD,
le lance-flamme.
Souvent.
Oui, moyen du bord.
Ah bah si, avec la boîte de CD. Bon, comme ça, on abîme les pare-brises. Donc, on a beaucoup de gelée hein, ce matin. -2 à Verdun et à Briançon, -1 à Metz, à Rouen, 0 degré à Aurillac, 1 petit degré à Vannes, 2 à Lille et Belfort, 4 degrés pour Paris, 8 à Bordeaux, 11 à Marseille. Il fait vraiment bien plus frais ce matin. Cet après-midi, ça n'a pas franchement grimpé. Regardez à Paris, par exemple, hier on avait 13 degrés, aujourd'hui on n'en a plus que 9. On perd 4 degrés dans la capitale. Il va faire vraiment beaucoup plus frais. C'est grâce au ciel qui est dégagé. Omblin, vous le savez maintenant, quand on n'a pas de nuages,
il fait froid.
Voilà, exactement. Donc ce matin, on n'a aucun nuage, mais attention quand même au brouillard. Le temps est sec partout, sauf en Corse. C'est vraiment la Corse qu'on va surveiller aujourd'hui, où la journée s'annonce encore très agitée, avec beaucoup d'averses orageuses cet après-midi. C'est une journée ensoleillée pour tout le monde, sauf sur les côtes de la Manche, où là on a un peu plus de nuages, et en Corse, où là, ça sera très humide.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Retour sur la planète Terre, réussi pour Thomas Pesquet, l'astronaute français à Améry il y a quelques minutes au large de la Floride. Pas de répit pour le Normand qui doit maintenant se réadapter à la vie normale. Nous serons en direct avec notre correspondant aux États-Unis. C'est le grand retour des allocutions. 4 mois après sa dernière prise de parole, Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h pour évoquer la crise sanitaire, mais aussi l'économie et les réformes à 5 mois de la présidentielle. Le détail dans un instant. Et puis l'Église va payer pour indemniser les victimes recensé par le rapport Sauvé, les fidèles ne seront pas mis à contribution. Finalement, l'institution piochera dans ses comptes en banque et si cela ne suffit pas, elle vendra ses biens, voire contractera des crédits.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mardi 9 novembre vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous.
4 astronauts of Crew 2, Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Aki Hoshiday and Thomas Pesquet now safely returned to Earth.
On l'entend, cette joie du côté de la NASA. Amérissage réussi pour Thomas Pesquet et ses 3 coéquipiers au large de la Floride. Ils viennent de regagner la Terre il y a moins d'une demi-heure à 4h33, comme annoncé. Cela faisait 6 mois que l'astronaute était à bord de la Station Spatiale Internationale. Alexis Guilleux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis en direct pour Europe 1. Comment s'est déroulé ce retour sur Terre ?
Eh bien, tout s'est déroulé comme prévu. Donc, un amerrissage à 4h33 dans le golfe du Mexique. La capsule Dragon qui est actuellement au milieu d'un océan très calme, entouré de bateaux positionnés dans la zone d'amerrissage. Pour le moment, Thomas Pesquet et son équipage ne sont pas sortis de cette capsule. Ils attendent patiemment à l'intérieur d'être récupérés par un navire. 10 minutes plus tôt, la capsule était une boule de feu dans le ciel de Floride après avoir traversé l'atmosphère. Elle a été freinée progressivement par plusieurs parachutes avant de se poser quasiment au ralenti dans l'eau. Ce voyage s'est donc déroulé comme prévu. La capsule Dragon s'était décrochée de l'ISS dans la soirée. Elle a fait le tour de la station spatiale internationale avant d'entrer en orbite autour de la Terre, puis de pénétrer dans l'atmosphère.
Et pas de répit pour Thomas Pesquet. Le programme est déjà chargé pour l'astronaute. Il va devoir se réadapter à la vie sur Terre maintenant. Comment ça va se passer maintenant pour lui, Alexis ?
Alors, il va être pris en charge par les équipes de la NASA, évacué vers Houston, au Texas. Il passera des examens médicaux de routine, le pouls, la tension pour vérifier que tout va bien. Puis, direction Cologne, en Allemagne, pour une remise en forme de plusieurs semaines au Centre européen des astronautes, avec là des journées assez intenses, puisqu'en revenant sur Terre, il faut tout réapprendre, se réhabituer à la gravité, supporter le poids de son corps, retrouver la masse musculaire qui a fondu dans l'espace. Le Français passera également des examens approfondis pour mieux connaître les effets d'un voyage spatial prolongé sur le corps humain. On sait par exemple que les os de Thomas Pesquet avaient vieilli prématurément lors de son dernier passage dans l'espace.
Merci Alexis Guilleux, correspondant pour Europe 1 aux États-Unis en direct.
Et à l'instant, la capsule est en train d'être arrimée et d'être déplacée sur un bateau. La capsule avec évidemment à l'intérieur Thomas Pesquet. Des petites piques, voire des tacles, mais tout en restant poli pour ne pas compromettre l'unité des Républicains.
L'instruction avait été donnée aux 5 candidats à l'investiture pour leur premier débat hier soir. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Philippe Juvin, le 4 décembre à l'issue du congrès, il n'en restera qu'un, celui qui représentera la droite à la présidentielle. Le réputé favori en interne, Michel Barnier, est devenu la cible de ses concurrents, notamment sur le moratoire migratoire qu'il propose.
Comme mes amis Valérie et Xavier font toujours semblant de ne pas comprendre.
Mais là où vous êtes expliqué, on a compris. Préciser. Il y aurait quand même des gens qui rentreraient.
Oui, mais dans ta proposition aussi.
Ah, mais moi, j'assume au référendum, oui.
Il y a dans le référendum que j'ai proposé, je l'ai toujours dit, Valérie, il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre, qu'il y aurait une saisine du Parlement chaque année pour faire exactement ce que tu dis, et ce que j'avais d'ailleurs dit probablement avant toi, que le Parlement devrait se prononcer chaque année sur les quotas, et peut-être
sur l'immigration,
quota zéro.
Je revendique d'en parler depuis des années, parce que je suis dans une région qui malheureusement est très soumise.
Tu as toujours raison, moi je te dis simplement que j'ai bâti une proposition complète, qui me paraît raisonnable et efficace.
Les candidats à l'investiture des Républicains qui débattront également le 21 novembre sur Europe 1.
Sa dernière allocution remonte au 12 juillet, jour J pour Emmanuel Macron qui s'exprime ce soir à 20h pour la 9e fois depuis le début de la crise du Covid.
Une allocution que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1, mais avant ça, nouveau conseil de défense sanitaire présidé ce matin par le chef de l'État pour faire un état des lieux de la situation épidémique qui se dégrade depuis plusieurs jours. Jacques Serret, sait-on déjà quelles pourraient être les annonces d'Emmanuel Macron ce soir ?
Eh bien, Emmanuel Macron pourrait se prononcer sur la troisième dose, contraindre les plus de 65 ans et les personnes fragiles éligibles à recevoir cette injection. Pour cela, le chef de l'État va préciser si oui ou non, le pass sanitaire des plus de 6 millions de Français concernés sera conditionné à cette dose. Mais l'allocution du président ne se limitera pas seulement aux mesures sanitaires. Emmanuel Macron se prépare également à parler reprise économique. Il veut rappeler les réformes engagées ces derniers mois. Surtout, selon un ministre, il pourrait ce soir faire des annonces, je cite, « contre l'assistanat en allant plus loin sur l'assurance chômage ». Le locataire de l'Élysée devrait également indiquer ses intentions en cette fin de quinquennat sur la réforme des retraites.
Mesures sanitaires, économiques, réformes, Jacques, si Emmanuel Macron parle ce soir, ce n'est pas un hasard du calendrier, tout est rodé.
Oui, à 5 mois de la présidentielle, tout est finement calculé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un membre du gouvernement pour Emmanuel Macron. Le choix du mardi 9 novembre, un vrai intérêt. En prenant la parole au lendemain du premier débat de la primaire des Républicains, le chef de l'État sait qu'il peut empêcher la droite de se construire une dynamique. Son entourage devine aussi que dans la bataille des audiences, l'allocution présidentielle comptera beaucoup plus de téléspectateurs. Enfin, alors que le nombre de responsables politiques en campagne se rendront à Colombey-les-Deux-Églises aujourd'hui pour l'anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de rappeler à ses adversaires que c'est lui qui est encore président. et qu'il est bien décidé à le rester.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'allocution d'Emmanuel Macron à suivre ce soir sur Europe 1, émission spéciale de 20h à 21h.
L'Église va payer pour indemniser les victimes de pédophilie en son sein.
Estimé à plus de 330 000 dans le rapport de la commission Sauvé, les évêques réunis à Lourdes depuis une semaine ont annoncé hier la création d'une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Elle sera dirigée par Marie Derain de Vaucresson qui prévient dans le journal La Croix. La réparation dépendra de chaque victime. L'Église ne puisera pas dans les ressources de ses fidèles. Alors Virginie Riva, où ira-t-elle chercher tout cet argent ?
Oui, le message est clair. L'institution veut réparer elle-même ses torts, mais pour abonder le fonds d'indemnisation des victimes, les diocèses vont devoir aller puiser dans leur réserve de sécurité. La situation est très différente d'un diocèse à un autre, mais en gros, chacun des 100 diocèses a environ entre 5 à 7 millions de réserves mobilisables, réparties en argent cash à la banque, en obligations ou en biens immobiliers. Il s'agit de terrains, appartements accumulés depuis 120 ans, c'est-à-dire après la loi 1905. Tous les bâtiments ou églises construits avant la loi 1905 sont la propriété de l'État. Mais toutes ces propriétés, dans tous les cas, ne sont pas forcément cessibles. Il faut avoir l'aval des héritiers pour vendre un immeuble donné par exemple à la paroisse qui servira en fait à indemniser des victimes. La grande inconnue pour l'instant, c'est le montant qu'il va falloir rassembler. On ne sait pas à ce jour le nombre de victimes qui vont demander réparation. Mais l'Église, nous dit-on à la conférence des évêques de France, pourra faire face. L'an dernier, elle a ainsi pu puiser dans ses réserves à hauteur de 40 millions à cause de la crise sanitaire. Elle se laisse également la possibilité d'emprunter de l'argent.
Merci Virginie Riva, journaliste société sur Europe 1.
Il est 5h passé de 8 minutes sur Europe 1. On en vient à ces images stupéfiantes. 3 à 4 000 migrants en provenance de Minsk en Biélorussie, amassés devant la frontière polonaise et de l'autre côté des soldats policiers et gardes-frontières.
L'Union européenne accuse le président biélorusse Alexandre Loukachenko d'orchestrer une vague de réfugiés jugée inacceptable après les sanctions imposées par Bruxelles à la suite d'une répression brutale de son régime contre l'opposition. Caroline Baudry.
Plus de 10 000 soldats aident les gardes-frontières, là où se passent les attaques les plus fortes.
Le désarroi du porte-parole du gouvernement polonais devant les images de la frontière. Munis de pelles, de sécateurs, de troncs d'arbres, des migrants tentent de détruire les couches de barbelés qui les séparent de la Pologne.
Et s'il vous plaît, laissez-nous passer.
Dites-moi, comment est-ce qu'ils vous arrêtent ?
Avec des grenades et avec du gaz.
Ils sont piégés dans une zone étroite. Les soldats biélorusses les empêchent de rebrousser chemin. La manœuvre serait orchestrée par les services spéciaux de Minsk et leur président, assure le ministre de l'Intérieur polonais.
Ce sont des représailles du régime de Loukachenko contre les fondements des gouvernements de Lituanie, de Lettonie et de Pologne, mais aussi contre les actions de l'Union européenne. Ces actions de Loukachenko remettent en cause la sécurité de la frontière polonaise et son intégrité.
La situation fait réagir jusqu'à Washington. Le porte-parole de la diplomatie américaine exhorte le Bélarus à cesser immédiatement de manipuler les flux de migrants.
Caroline Baudry.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup, Alban.
Il est 5h10 bientôt sur Europe 1. L'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Angers. Mon pari gagnant sera le 201 Palpitator. Spécialiste des 3000 mètres, la distance qui nous intéresse, et ayant souvent bien réussi face à une opposition d'un niveau plus relevé que celle de cet après-midi, force est de reconnaître qu'il trouve ici des conditions de course et un terrain très souple en parfaite adéquation avec ses aptitudes. Dès lors, il devrait pouvoir renouer avec la victoire qu'il n'a plus connue depuis plus d'un an. Alors notez bien, pour Angers, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 1, Palpitator.
Palpitator, c'est noté, quel joli nom. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Très bon réveil à tous avec Europe 1. Dans un instant, on va ouvrir les journaux ensemble.
Et au menu de votre pressing, le phénomène balance ton bar, les totems de Koh-Lanta et le ver marin vous veut du bien. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bon matin, 5h11, voici Martin Lange qui nous rejoint pour le pressing. Bonjour Martin.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence juste avant de retrouver Martin, les unes de vos journaux qui pour la plupart reviennent sur la décision des évêques de France d'indemniser les victimes recensées par le rapport Sauvé. Pédophilie, l'Église va payer, titre aujourd'hui en France. Comment l'Église va indemniser les victimes, ajoute le Figaro. Les fidèles ne seront pas mis à contribution. Affaire PPDA, elles accusent, c'est le titre à la la une de Libération qui publie les témoignages de 8 femmes affirmant, visage découvert, avoir subi des violences sexuelles de Patrick Poivre d'Arvor. Autant de faits désormais prescrits. Voilà pourquoi l'enquête a été classée sans suite. Et puis, déboussolé, peut-on lire à la une de L'Équipe, déboussolé avec le O et le L à la fin en rouge. Il est donc question de l'Olympique lyonnais au bord de l'implosion après l'humiliation 4-1 dimanche face au Stade Rennais. Voilà pour les unes. Martin, comme promis, quel article avez-vous nous raconté?
Eh bien, ce matin, je vous parle d'un nouveau mot-clé devenu viral sur les réseaux sociaux, le hashtag balance ton bar. Il est parti de Belgique où, depuis un mois environ, les témoignages affluent sur Instagram. Au départ, il visait deux bars proches du campus de l'Université Libre de Bruxelles. Mais depuis, le mouvement a pris de l'ampleur. La parole s'est libérée. Des centaines de jeunes femmes racontent les agressions sexuelles dont elles ont été victimes par des clients, mais aussi des barmans. Le GHB a ingurgité pour certaines, les viols pour d'autres. Face à ce torrent de révélations, un collectif féministe appelle même au boycott des bars et des clubs de Bruxelles vendredi prochain. Une manifestation sera aussi organisée dans le centre de la capitale belge. Ce collectif réclame une prise de conscience du monde de la nuit face à ces violences qu'il juge systémiques. Selon eux, le seul moyen de faire bouger les choses, c'est de frapper les patrons de bars au porte-monnaie. D'où l'idée de cette grève. Un mouvement pris très au sérieux en haut lieu. La secrétaire d'État belge à l'égalité des genres a même réagi dans le journal Le Monde. Il faut que la réponse étatique soit à la hauteur, dit-elle.
Ce mouvement balance ton bar, Martin, est né en Belgique. Mais il est en train de gagner la France.
Oui, il dépasse largement les frontières du plat pays. Des pages balance ton bar ont été créées à Paris, Lille ou encore Toulouse. Ça fait d'ailleurs plusieurs semaines que les médias font écho en France de la multiplication des agressions au GHB, qu'on appelle communément la drogue du violeur. En Grande-Bretagne, une nouvelle drogue est même apparue ces dernières semaines. Cette dernière s'injecte avec une seringue. Elle aurait fait plus d'une centaine de victimes. À Montpellier, par exemple, une cinquantaine de plaintes pour agressions sexuelles ont été reçues par l'Association Générale des Étudiants. Plusieurs plaintes ont été déposées en France, mais aussi et surtout en Belgique, où une enquête a été diligentée par le parquet de Bruxelles, qui assure travailler de manière approfondie et minutieuse, en respectant la présomption d'innocence. Le mouvement Balance ton bar appelle au boycott des bars de Bruxelles. C'est à retrouver sur le site du Huffington Post.
Balance ton bar, donc. Merci beaucoup, Martin. Omblin, sur une note plus légère, je
oui,
crois.
Oui, nettement plus. C'est le rendez-vous télé du mardi soir, Koh-Lanta sur TF1. Alors, qui dit Koh-Lanta dit épreuve, conseil, flambeau, riz ou absence de riz. C'est tout le problème.
Faut le gagner.
Mais, voilà. Mais Koh-Lanta, c'est surtout donc le totem symbole d'immunité dans le jeu, le Graal pour chaque candidat ou chaque équipe qui souhaite poursuivre l'aventure. Ce totem fait l'objet d'une attention particulière ce matin dans Le Parisien. Aujourd'hui, en France, rencontre avec celui qui l'imagine, le dessine, le sculpte saison après saison. Il s'appelle Guillaume Béal. Il est le directeur artistique de l'émission. Son aventure Koh-Lanta à lui a commencé il y a une dizaine d'années. Sa spécialité était à l'origine les sculptures animalières. Simple accessoiriste lorsqu'il est arrivé. Il a pris du galon depuis et, je cite, donne son avis partout, du moindre accessoire à la conception des jeux. La spécificité du totem, si vous êtes adepte de Koh-Lanta, cela ne vous a pas échappé. Je vous regarde. C'est que le précieux trophée change à chaque édition. Il est différent, ça vous l'avez quand même remarqué.
Non, j'avais pas remarqué.
C'est pas le même. C'est pas la même sculpture à chaque fois. Vous devriez. Il y a donc pour Guillaume Béal en amont un travail d'investigation. Pour le totem et pour les autres objets du décor, il se rend en premier lieu au musée du Quai Branly à Paris pour se documenter. Ensuite, il va sur place 2 mois avant le début du tournage. Le totem est sculpté dans du bois récupéré. Toujours, c'est toujours de la récup. Et puis, Koh-Lanta, la légende que vous regardez.
Évidemment,
depuis 10 semaines maintenant, la particularité du totem, c'est le ventre en nacre. Il a fallu visiter des fermes perlières et trouver des huîtres énormes pour créer ce rond bleuté. Et ce n'est pas du plastique, si vous posiez la question, c'est pas du tout dans l'esprit. Chaque élément du décor s'inspire des objets, des histoires, des légendes du pays ou de l'île d'accueil. Et pour cela, Guillaume Béal emploie des artistes locaux. Ce sont des habitants du coin qui, à la fin, récupèrent beaucoup de choses. Lui ne garde rien, pas même un seul totem.
La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Mais non, même sans totem, il a l'immunité et il prépare déjà la suite. On murmure que ce serait aux Philippines. Il est le directeur artistique de Koh-Lanta, il s'appelle Guillaume Béal et il est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Ombline. Je vous avez quelque chose à rajouter, Martin?
Rien du tout.
Mais non. Ça vous laisse quoi?
C'est, exactement. Mais c'est hyper intéressant. C'est
j'ai choisi pour ma part un article qui nous prouve une nouvelle fois que quand l'homme et la nature coopèrent, cela donne de jolies histoires, comme celle de ce ver marin né à Noirmoutier et qui, il y a quelques semaines, a aidé à 8000 km de là à ce qu'un agriculteur indien amputé retrouve ses avant-bras.
Bon, je pense que vous n'allez pas bien, Julien, ce matin.
Non, avant-bras, je vais 8000 km.
Parce que c'est vous avez pris du GHB, cette c'est ça.
Bon, on y revient, tiens.
Non, ce n'est pas le fruit d'un délire sous LSD ou de GHB. Non, cette histoire est totalement véridique. Je vous présente Arenicola marina, bravo, alias ver de vase. Vous savez, ce sont ces lombrics d'une dizaine de centimètres de long qui font des tortillons dans le sable à marée basse. Eh bien, figurez-vous que le ver de vase est un super-héros qui mériterait d'intégrer les Avengers de Marvel. Son pouvoir, son hémoglobine, capable de fixer 40 fois plus d'oxygène que la nôtre. C'est ce qui permet à ce ver marin, au passage, de survivre au moins 6 heures sans respirer entre deux marées. Autre avantage de cette super-hémoglobine, elle n'a pas besoin de globules rouges pour être transportée dans le sang. En clair, elle marche avec tous les groupes sanguins. Elle est universelle. Autant d'atouts étudiés depuis 20 ans maintenant par un biologiste français qui a fondé en 2007 Emarina, une start-up basée à Morlaix dans le Finistère. Son produit phare, l'Hemo2Life, un concentré d'hémoglobine de ver marin dont le pouvoir d'oxygénation est une petite révolution pour les chirurgiens. Car aujourd'hui, la difficulté principale des greffes, c'est d'opérer suffisamment vite pour que le greffon reste en vie. Autrement dit, qu'entre son prélèvement sur le donneur et sa reconnexion, entre guillemets, avec le receveur, il ne soit pas privé trop longtemps de l'oxygène que lui apportait la circulation sanguine. Et c'est là qu'entre en jeu l'Hemo2Life. Ajouté au liquide de conservation dans lequel le greffon est plongé avant l'opération, il lui insuffle lentement de l'oxygène pendant environ 6 heures. Cela permet aux chirurgiens d'avoir un peu plus de temps pour intervenir, notamment pour les opérations très compliquées. Et puis c'est surtout l'assurance qu'aucune micro-lésion n'apparaissent dans le greffon, c'est ce qui arrive quand ils sont privés trop longtemps d'oxygène et c'est l'une des causes principales de rejet. C'est donc ce produit qui a été utilisé avec succès début septembre par un chirurgien indien, une double greffe des membres supérieurs d'un agriculteur victime d'une électrocution. Chez nous aussi, l'Hemo2Life a fait des merveilles, notamment lors de la greffe d'un visage. Une fois revascularisé, tout était rose d'emblée, comme si l'organe n'avait jamais été déconnecté de la circulation sanguine, s'étonne encore l'éminent professeur Lantieri qui était à la manœuvre. Alors pour l'heure, ce produit n'est utilisé qu'occasionnellement à titre expérimental, mais cet hémoglobine de ver marin pourrait obtenir tous les feux verts réglementaires d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire dans le Figaro.
Un ver de vase pour les greffes.
Absolument.
Pas mal, hein ?
Qui l'aurait cru ?
Passionnant.
Hein ? La science ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Julien, le pressing c'est fini, c'est bien dommage, mais ça recommence demain et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Amerrissage réussi pour Thomas Pesquet après 200 jours en apesanteur à bord de l'ISS. Et ça y est, l'astronaute français et ses trois coéquipiers ont amerri à 4h33 au large de la Floride à bord de la capsule Dragon. Elle ramenait avec eux 240 kilos de matériel et d'expérience scientifique. Sa dernière allocution remonte au 12 juillet. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h au moment où l'épidémie regagne du terrain. Le président doit faire des annonces sur le Covid, mais aussi sur la relance économique et les réformes. Allocution à suivre sur Europe 1 en direct. Et puis sur les vaccins, la Haute Autorité de la Santé déconseille désormais l'injection du sérum Moderna sur les moins de 30 ans. La raison, il accroît le risque de myocardite et péricardite sur cette population. Tous à Colombey, les deux églises aujourd'hui à l'occasion du 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle, Jean Castex, Anne Hidalgo, les candidats à l'investiture, les Républicains ou encore Florian Philippot. Ils lui rendront tous hommage aujourd'hui.
Bon réveil avec les initiatives en France, notre coup de projecteur sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Marine Crest.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes médecin généraliste à Marseille et par ailleurs présidente de Guérir en mer, association qui soigne les soignants en les emmenant au large. Est-ce que c'est un bon résumé ?
Oui, c'est même complètement ça. On essaie d'emmener sur l'eau les soignants tous confondus, pas uniquement les médecins, aussi les infirmières, les sages-femmes, les kinés, les biologistes, les ostéopathes, le maximum de soignants sur l'eau pour les inviter à prendre soin d'eux et à prendre le large.
Ce sont des personnes qui font des burn-out, voire des dépressions ?
Les soignants, de manière globale, ce sont des gens qui, par leur profession, sont à haut risque de faire un burn-out dans leur vie professionnelle. C'est vraiment une profession à risque, quel que soit le métier du soin dans lequel vous êtes, de par plusieurs conditions, des conditions de non-reconnaissance, des conditions de manque de moyens financiers, etc., de pression au quotidien, de difficultés du métier. Et donc oui, c'est vraiment une profession qui a fort risque de faire un burn-out.
C'est vraiment thérapeutique, les sorties en mer ?
Alors la voile, oui, c'est vraiment thérapeutique. Ça a été montré et démontré plusieurs fois par plein d'études scientifiques qui sont publiées d'ailleurs, auxquelles on peut avoir accès sur Internet. Les premiers, c'est les Américains qui ont montré ça pour le bien-être en fait des Marines qui revenaient de guerre dans des conditions de stress, d'état de stress post-traumatique très important. Et après, ça a été démontré que ça faisait énormément de bien dans toutes les pathologies psychologiques et psychiatriques. Et puis après, dans les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc oui, ça a été prouvé que la voile faisait beaucoup de bien au niveau psychique et au niveau physique.
Et puis la voile, c'est aussi un peu comme à l'hôpital, c'est du travail en équipe avec parfois de gros pics de stress.
Alors, c'est vrai que quand on est sur un bateau, il y a deux choses. Donc, c'est absolument pas l'hôpital parce que vous êtes dans un endroit qui est complètement ouvert dans la nature avec un espace infini, que ce soit pour ce que vous voyez, ce que vous ressentez dans tous les sens qui sont stimulés. Mais par contre, sur un bateau, il y a forcément un travail d'équipe qui ressemble en beaucoup de points à ce qu'on peut vivre à l'hôpital. On est par moments seul, sur des bords qu'on peut tirer très seul, on se met dans des états d'auto-hypnose, on est concentré sur sa tâche, etc. Et puis d'un seul coup, il y a un travail d'équipe à faire ensemble avec un besoin de cohésion, d'être complémentaire. Et ça, c'est quelque chose que le soignant sait faire, auquel il est habitué. Et là, l'idée, c'est de reprendre un petit peu ces automatismes-là, mais les transformer dans du positif en enlevant le stress et en ayant en fait une construction positive sur l'eau, avec la nature, justement, pour essayer de libérer toute cette pression.
Comment vous est venue cette idée d'organiser des sorties en mer avec des soignants ?
Alors, moi-même, j'ai fait un burn-out quand j'étais jeune interne. À l'époque, j'étais vice-présidente du syndicat des jeunes médecins généralistes. Et j'ai fait un burn-out pendant un de mes stages d'internat. Et pendant plusieurs années, on a essayé donc, de défendre le droit des internes, les conditions de formation des internes. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'internes qui se suicident. Et c'est absolument pas gagné par rapport aux conditions de formation et conditions de travail. Et suite à ça, je me suis un petit peu formée. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et après, j'ai découvert en fait la voile, non pas en tant que loisir, mais en tant que sport, grâce à un ami qui est kinésithérapeute et qui m'a invité à venir faire de la régate sur l'eau avec lui. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vraiment extraordinaire, il faut absolument qu'on partage ça, et il faudrait qu'on emmène en fait les gens sur l'eau.
Est-ce que vous êtes pour autant inquiète pour l'avenir de l'hôpital ?
Complètement, oui. Mais pas que de l'hôpital. Il y a un vrai problème fondamental, c'est qu'il y a un manque de communication entre ces différents soignants, entre les différentes structures de soins. Il y a un problème de communication entre la ville et l'hôpital. Moi, aujourd'hui, je suis sortie du contexte hospitalier par choix parce que c'était trop compliqué et je suis en ville. C'est d'autres complications, c'est aussi difficile pour d'autres raisons, mais le vrai problème existentiel, c'est les manques de communication entre au sein des hôpitaux eux-mêmes, entre le privé et le public, le public et le public, le privé et le privé. Puis après, il y a la ville, et puis entre les deux, en fait, il n'y a pas assez de passerelles, il n'y a pas assez de liens. Ce qui fait que vous avez des soignants qui souffrent un petit peu chacun de leur côté, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent et qui n'arrivent pas, en fait, à ce que ce soit constructif. Et ça, c'est vraiment le problème majeur d'aujourd'hui. Et oui, je suis inquiète, non pas que pour l'hôpital, mais pour les soignants en général, et puis surtout pour les soignés. Parce que si les soignants ne vont pas bien, ils ne vont plus pouvoir travailler et dans des moins bonnes conditions et apporter des soins qui vont être de moins bonne qualité aux gens. Et du coup, on s'inquiète aussi pour les soigner.
Merci beaucoup, docteur. Guérir en mer, c'est le nom de votre association qui vient en aide à nos soignants épuisés et pour certains démoralisés. Bravo pour ce que vous faites et on vous souhaite bon vent pour la suite.
Merci beaucoup. Merci.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très beau réveil à tous, il est 5h28 et voici le programme de la prochaine demi-heure, Omblin.
Nicolas va nous faire découvrir un recueil de lettres envoyées par Françoise Sagan à son amie de jeunesse. Rendez-vous dans un quart d'heure.
Et puis une Mona Lisa vendue aux enchères.
Alors pas de panique, il ne s'agit pas de la Joconde enfermée à double tour dans une vitrine dont le verre anti-reflet est à l'épreuve des balles au cœur du musée du Louvre. Je parle là d'une reproduction peinte un siècle après le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, une copie exceptionnelle selon les experts dont la ressemblance avec l'original est troublante. Retrouvée il y a 6 mois lors d'un inventaire familial, elle est donc mise aux enchères par la maison Arcurial à Paris. Aujourd'hui, nous serons dans 10 minutes avec le directeur associé d'Arcurial.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Gréhec-Naps.
La météo avec Anissa Haddadi, une belle journée aujourd'hui, mais avant, il va y avoir des brouillards.
Ah oui, alors il y en a beaucoup, des brouillards. En fait, toutes les régions sont concernées par ces brouillards, sauf la Normandie, les Hauts-de-France et la Provence. Voilà, si vous habitez dans ces coins-là, vous êtes tranquille sur la route. Mais alors, partout ailleurs, il y a des brouillards, des nuages bas, des brumes matinales. Donc, soyez très prudents sur la route. En Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, on a un ciel qui est un petit peu plus couvert ce matin. Le Mistral et la Tramontane soufflent toujours dans le sud, mais un petit peu moins fort qu'hier. Aujourd'hui, on aura des rafales à 70 km/h ce matin, puis ça va faiblir un petit peu dans l'après-midi. En Occitanie, sur le Lyonnais et en Alsace, cet après-midi, là, on a des petites grisailles qui restent tenaces. Mais sinon, vous le disiez, Julien, hein, c'est une belle journée. Le soleil sera majoritaire sur toutes les régions. Il va faire vraiment très beau aujourd'hui, sauf sur les côtes de la Manche, où là, on a un ciel un petit peu plus nuageux. Et puis là où c'est vraiment compliqué depuis hier, c'est en Corse. La journée est encore très instable. Ouais. On a des averses très importante avec des cumuls d'eau, on a des averses orageuses et on a du vent d'est qui souffle. Donc on va surveiller ça de près. Ce matin il fait froid, moins 4 à Aurillac, moins 3 à Montluçon, moins 2 à Nevers, moins 1 à Rodez et Colmar, 0 à Limoges, 2 degrés à Paris et 13 à Nice ce matin. Couvrez-vous.
Il fait donc frais. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Paris demande à Bruxelles de réformer les règles du marché européen de l'électricité pour contrer la flambée des prix. L'idée est loin de faire l'unanimité au sein des pays de l'Union européenne. Le retour réussi de Thomas Pesquet sur la terre ferme. Le Français à Améry, il y a un tout petit peu moins d'une demi-heure au large de la Floride, après 6 mois passés dans l'espace. Une longue période de réadaptation commence, nous dira Lord d'Autriche. Et puis le syndrome éolien est-il une réalité? La cour d'appel de Toulouse donne raison à des riverains qui se plaignaient des effets nocifs sur leur santé. Le débat sur les éoliennes pourrait être relancé.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On ne va pas parler encore de bras de fer, mais la partie s'annonce compliquée pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie demande à Bruxelles de revoir les règles du marché européen de l'énergie face à l'inflation des prix, notamment ceux de l'électricité. Paris voudrait davantage de régulation. Problème, l'Europe a bâti son modèle sur la dérégulation et la libre concurrence. Cela n'empêche pas Bruno Le Maire d'avancer quelques pistes, Isabelle Horry.
Oui, 3 propositions pour qu'à l'avenir, les prix de l'électricité payés par les consommateurs européens et les entreprises ne soient plus autant liés aux fluctuations du prix du gaz. D'abord, Bruno Le Maire suggère qu'en cas de hausse brutale des prix, les producteurs d'électricité comme EDF soient contraints par contrat à reverser une partie de leurs bénéfices pour atténuer le choc sur nos factures.
Nous nous proposons un stabilisateur automatique de prix qui ferait que nous prévoirions, avant même toute augmentation des prix, que cette augmentation de recettes pour le producteur serait automatiquement répercutée vers le fournisseur et donc vers le particulier ou vers l'entreprise.
Ensuite, les entreprises seraient autorisées à conclure des contrats à long terme à prix stable, à condition de s'engager à recourir à une électricité sans carbone. Enfin, le ministre veut que partout en Europe, les consommateurs puissent avoir accès à une offre d'électricité à prix fixe. À ce stade, seules l'Espagne, la Grèce et la République tchèque soutiennent ces propositions. Elles risquent en revanche de faire tousser les pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qui croient à la régulation par le marché.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
C'est l'information de cette matinée et vous pouvez la vivre en direct sur Europe 1 depuis ce matin. Thomas Pesquet a réussi son retour sur la terre ferme.
Il a atterri au large de la Floride à 4h33 comme prévu, pile une heure après 6 mois passés à bord de la Station Spatiale Internationale. Le Français, qui est en train de quitter sa capsule, va devoir maintenant se réadapter à la vie terrestre. Plus facile à dire qu'à faire. Il va passer une série d'examens à Cologne, au Centre Européen des Astronautes, où vous vous trouvez, Lord d'Autriche. Passer 6 mois dans l'espace, ça n'est pas neutre pour le corps humain.
Oui, par exemple, le cœur, il a rétréci dans l'espace et il faut éviter de le fatiguer dans les premiers jours sur Terre. Il faut réapprendre à marcher aussi. Après 6 mois sans avoir posé le pied par terre, Thomas Pesquet a les pieds très sensibles, comme des pieds de bébé, me disait un astronaute. Il a aussi des problèmes d'équilibre, il lui est donc formellement interdit de conduire, par exemple, pendant 3 semaines. Des tests médicaux très variés vont se succéder ici à Cologne dès que Thomas Pesquet arrivera, c'est ce qu'explique Adrianos Golemis, son médecin à l'Agence spatiale européenne.
On fait un contrôle des yeux parce qu'il y a des astronautes qui développent en fait des problèmes de la vision après 6 mois ou plus dans l'espace. On les aide en fait pour réadapter le corps à la vie ici, sur notre planète.
Et certains examens médicaux sont aussi destinés à préparer les futurs voyages vers la Lune, vers la planète Mars aussi. Les scientifiques cherchent à savoir comment le corps d'un astronaute réagirait et résisterait lors d'un aller-retour sur Mars qui durerait au moins 2 ans.
Lord Autriche en direct du Centre européen des astronautes de Cologne en Allemagne.
La France pourrait relancer la construction de centrales nucléaires, les fameux EPR de nouvelle génération.
On ne sait pas si Emmanuel Macron l'annoncera ce soir au cours de son allocution télévisée, mais l'on sait que le président pourrait donner son feu vert d'ici la fin de l'année. De quoi s'agit-il ? De construire 6 réacteurs EPR en France. Cette fois promis, dit EDF, la filière a appris de ses échecs passés entre retards multiples sur les chantiers de l'EPR de Finlande et de Flamanville, les malfaçons et l'explosion des coûts. Alain Transer est le délégué général à la qualité industrielle et aux compétences nucléaire à EDF.
La filière, on l'a montré aujourd'hui, elle est prête. La filière, elle se transforme. La filière, elle obtient des résultats. Elle gagne un ordre de grandeur en ce moment sur sa qualité, sur sa diversité, son aptitude à faire bon du premier coup. Ce que nous voulons, c'est montrer des preuves tangibles sur les chantiers en cours de notre aptitude à faire bon du premier coup en toute rigueur dans la maîtrise des délais et des coûts. L'ordre de grandeur que nous avons annoncé, c'est que chacun des réacteurs EPR2 devrait coûter 30% moins cher que Flamanville.
Alain Transer, le délégué général à la qualité industrielle et aux compétences nucléaires chez EDF, il répondait à Baudet-Descamps.
L'Église paiera pour les agressions et les crimes sexuels commis en son sein. Le clergé affirme qu'il va indemniser les milliers de victimes recensées par le rapport Sauvé.
La conférence des évêques de France reconnaît la responsabilité systémique de l'Église. Il faut maintenant instruire les demandes des victimes. Le rapport Sauvé en a recensé 330 000, mais depuis sa publication il y a un mois, d'autres se sont manifestés sur la question de l'indemnisation. L'Église a cédé et va donc indemniser les victimes sur ses propres deniers. C'est une spécialiste des droits de l'enfant Marie Dorin de Vaucresson qui sera chargée de mettre en œuvre ce dispositif.
C'est une victoire judiciaire qui pourrait faire date. Un tribunal reconnaît l'existence d'un syndrome éolien.
Maux de tête, vertige, ce couple installé dans le Tarn à proximité d'un parc à éoliennes a très vite fait le lien entre ses problèmes de santé et la présence de ces hélices géantes. La cour d'appel de Toulouse vient de lui donner raison. Un espoir pour les opposants. L'association SOS Danger Éolien se bat depuis plusieurs années pour que le syndrome éolien soit reconnu. Zoé Pallier est allée à leur rencontre à Puisieux et Clanlieu dans l'Aisne. Reportage.
Au départ, j'étais pour les éoliennes. Ça me paraissait l'avenir. Eh ben, j'ai déchanté après.
Depuis sa maison, Evelyne ne voit pas les éoliennes, mais elle dit les sentir. Des raideurs dans la nuque et un sifflement permanent dans les oreilles depuis l'installation d'un parc à un peu plus de 3 km de chez elle.
On part en vacances où il n'y a pas d'éoliennes et j'ai plus d'acouphènes, plus rien.
Evelyne a donc formulé une réclamation auprès de la préfecture sur les conseils de Valérie Bernardo, sa voisine et la fondatrice de l'association SOS Danger Éolien.
Voilà tous les dossiers que j'ai récupérés, j'en suis à plus de 230. Les gens écrivent ce qu'ils ont. Migraines, nausées, vertiges. Nous, on a envoyé tout ça au mois de janvier. On n'a pas de réponse. On ne peut pas rester comme ça.
Et Valérie Bernardo peut compter sur le soutien du médecin du village. Chaque jour dans son cabinet, des patients se plaignent des mêmes symptômes. Le fruit, selon lui, des infrasons que produisent les éoliennes.
On ne peut pas avoir une preuve. Il n'y a pas une prise de sang qui le démontre. C'est ça le problème. Il faudrait couper les éoliennes, par exemple, pendant un mois, puis voir comment les gens vivent alors que les éoliennes sont arrêtées.
Les membres de l'association espèrent en tout cas un moratoire sur les éoliennes, le temps de conduire des études épidémiologiques.
Un reportage Zoé Pallier.
C'était le journal de Christophe Lamarre, merci beaucoup Christophe. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome d'Angers pour ce Quintet à handicap qui réunira 16 pur sang âgés de 3 à 8 ans sur la distance de 1600 mètres avec deux bons favoris, les numéros 7 Aibari et 10 Goldino Bello. Classé dans cet ordre aux deux premières places d'un quintet similaire le 17 octobre sur l'hippodrome de Longchamp et qui n'ont qu'à répéter cette performance pour conclure une nouvelle fois dans les 5 premiers. On leur opposera Go to Hollywood, le numéro 2, très malheureux ce jour-là, étant contraint de changer plusieurs fois de ligne dans la phase finale, ce qui lui coûte à coup sûr une place dans les 3 premiers, avec le numéro 5, Caviar, contrarié à 2 reprises dans ce style d'épreuve, et pour laquelle je reste persuadé qu'elle a largement le niveau d'une telle course lorsqu'elle pourra bénéficier d'un parcours fluide. Enfin, les numéros 8, Bayoun, 6, Norwegian Sir, 14, Madison Avenue et 4, Often Work compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 10, 2, 5, 8, 6, 14 et 4.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger. Il est 5h38. Une reproduction de la Joconde sera mise aux enchères aujourd'hui. À tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h39 et très bon réveil à tous sur Europe 1. Elle ressemble à s'y méprendre à la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Une copie ancienne de la Joconde, de qualité exceptionnelle selon les experts, sera vendue aux enchères à Paris aujourd'hui par la maison Arcurial. Son estimation s'élève entre 150 000 et 200 000 euros. On en parle Omblin avec Mathieu Fournier, expert du département maître ancien et du 19e siècle, directeur associé chez Arcurial.
Bonjour Mathieu Fournier.
Bonjour.
La Joconde est le tableau le plus célèbre au monde. Il existe de nombreuses copies. En quoi celle-ci est plus notable, voire plus exceptionnelle que les autres?
Celle-ci est vraiment différente des autres. C'est-à-dire que quand on a une copie de la Joconde sous les yeux, généralement elle est peinte sur toile, la nôtre est peinte sur panneau. C'est une véritable exception dans le panorama des copies de la Joconde du XVIIe siècle. Par conséquent, ce support merveilleux qu'est le panneau permet une conservation idéale de la peinture. Aujourd'hui, le tableau que nous avons devant les yeux est effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, à s'y méprendre, comparé à l'original de Léonard qui est conservé au musée du Louvre.
Comment la distingue-t-on de l'original? Quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances extrêmement marquantes selon vous?
Alors, si nous voulions faire le jeu des sept erreurs, notre tableau a été peint 100 ans après, on voit dans l'exécution du tableau une touche plus généreuse, une touche plus en matière. Alors que Léonard peint avec une succession de glacis qui crée des transparences merveilleuses. Mais le défaut aussi de Léonard, c'est qu'il a une technique tellement particulière, c'est qu'elle est extrêmement difficile à restaurer. Si la Joconde du Louvre aujourd'hui se présente dans un état légèrement jauni comme celui que nous connaissons, c'est parce que c'est très difficile de restaurer la Joconde et les tableaux de Léonard de Vinci. C'est pour ça que dans la presse, dès qu'il y a un tableau de Léonard qui doit être décroché des cimaises du Louvre pour passer dans un atelier de restauration, il y a des levées de boucliers, de nombreuses interrogations, des comptes rendus qu'il faut dresser et des vrais enjeux qui sont soulevés. Nous, notre tableau a été exécuté début du XVIIe siècle à Fontainebleau, devant l'original où il se trouvait alors dans les collections royales. Et il a été exécuté avec un pinceau et une matière beaucoup plus riche. Et donc, l'état de conservation tel qu'il est aujourd'hui est excellent et très très bon. Il est facilement nettoyable, facilement restaurable, ce qui n'est pas le cas de l'original de Léonard. Mais l'état dans lequel est notre tableau permet surtout de voir l'original de la Joconde tel qu'il était au XVIe siècle. Oui. C'est-à-dire un tableau avec des couleurs beaucoup plus franches.
C'est comme une seconde jeunesse en fait. Là, la Joconde retrouve sa jeunesse grâce à cette copie.
C'est une machine à remonter dans le temps.
Elle a été réalisée, vous le disiez, au début du XVIe siècle, peinte un siècle donc après l'original de Léonard de Vinci. Elle est attribuée à l'école de Fontainebleau, vous le précisiez également. Il est impossible de savoir qui en est l'auteur.
Il est très difficile de savoir qui est l'auteur d'une copie ancienne. Nous savons que Ambroise Dubois, qui était un grand peintre de la seconde école de Fontainebleau, a réalisé une copie de la Joconde. Nous savons que dans l'inventaire de la famille Granvelle à Besançon en 1607, il y a une copie de la Joconde sur panneau de chêne, cela est bien spécifié, mais ce sont les seuls indices qui pourraient éventuellement être concomitants et correspondre à notre tableau. Non, c'est très difficile de savoir qui a peint une copie d'un tableau.
En juin dernier, une autre copie de Mona Lisa réalisée au XVIIe siècle a été vendue aux enchères presque 3 millions d'euros. Ça vous donne peut-être une idée de ce qui va se passer aujourd'hui. Mais comment vous expliquez cet emballement pour une copie?
Alors, c'est plus qu'une copie. En fait, nous plongeons dans l'intimité d'un mystère total qui est celui de l'œuvre de Léonard de Vinci et surtout un regard absolument fascinant. C'est la plus belle femme de la peinture. C'est un des tableaux les plus célèbres. Je pense que nous avons tous envie de passer du temps avec la Joconde. Imaginez un petit peu quelle serait la soirée que vous passeriez si vous étiez avec un bon verre de Bordeaux en face d'une très très belle copie de la Joconde. C'est un moment vraiment fantastique.
Oui, parce que c'est ça qu'il y a d'exceptionnel, c'est que comme c'est une copie de la Joconde, aussi exceptionnelle soit-elle, évidemment on peut s'approcher. Et il n'y a pas non seulement des touristes, mais une vitrine entre le tableau et nos yeux, et nous.
Oui, en fin de compte, c'est ça qui est absolument fascinant avec les œuvres d'art. C'est que vous côtoyez quelque chose qui vous dépasse totalement, qui traverse la notion du temps. Nous ne sommes que de simples mortels, alors que la Joconde, elle, est immortelle.
Alors pardonnez-moi cette question peut-être un peu pour la gratter, mais vendre aux enchères la copie d'un tableau aussi célèbre que la Joconde, est-ce que ce n'est pas faire la promotion d'une contrefaçon, d'un faux, puisque ce n'est pas la Joconde, c'est une copie.
Oui, mais la notion de contrefaçon, de faux sont des notions du XXe siècle. Il n'y a pas du tout la même perception de la reproduction dans un atelier. Anciennement, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les artistes rémunèrent des copistes dans leurs propres ateliers pour ventiler leur œuvre. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans une époque digitale où la reproduction, les images sont ventilées à toute vitesse. Ce n'est absolument pas le cas anciennement. Anciennement, il faut passer soit par l'intermédiaire de la gravure, alors un support noir, un peu rigide, un peu dur, ou alors par le support de la reproduction, de la copie dans un atelier. Et ça, c'est beaucoup plus séduisant. Non, il faut vraiment analyser les choses à l'aune de l'époque à laquelle notre copie a été réalisée. Pas du tout avec le regard de notre époque, qui est une époque où, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une image est ventilée en 2 secondes à travers le monde. Là, c'est totalement différent. L'artiste qui a peint notre copie de la Joconde l'a fait devant l'original. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire une copie.
Merci beaucoup, Mathieu Fournier, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Vous êtes expert du département Maîtres anciens et du 19e siècle, directeur associé Art Curial. Et cette reproduction exceptionnelle de la Joconde sera mise aux enchères aujourd'hui. Excellente journée, merci.
À très bientôt.
Et à 6h moins quart, c'est bel et bien le vrai Nicolas Carreau qui nous rejoint pour la prescription culture.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Ambline, bonjour Julien.
Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un mythe littéraire, François Sagan. Encore ?
Eh oui, encore. Alors il y a deux camps, il y a ceux qui en ont marre que l'on publie tout ce qu'on retrouve de Sagan, et puis il y a ceux comme moi qui en redemandent encore et encore. Et alors là, en fait, je pense que les deux camps peuvent se rassembler. Stock publie « Écris-moi vite et longuement ». Ce sont des lettres envoyées par Françoise Sagan, Françoise Quarez, de son vrai nom, à son amie Véronique Campion, la sociologue spécialiste notamment des légendes urbaines et des théories du complot, bien, bien avant qu'on en parle autant. Elles se sont rencontrées ados en 1951, soit 3 ans avant le premier succès de Françoise Sagan.
Le célèbre « Bonjour Tristesse ».
Exactement. Et c'est important parce que c'est une amie d'avant le vedettariat et donc on y trouve sans doute plus de sincérité qu'avec quiconque. Les lettres sont reproduites telles quelles, y compris les fautes d'orthographe, et l'éditeur a ajouté des petits dessins qu'elle dessinait, des petits bonhommes rigolos ou les en-têtes des hôtels, chez Père d'Hôtel à Jérusalem ou l'Hôtel Pierre à New York. Justement, depuis l'Hôtel Pierre, je vous la lis parce qu'elle est très courte. « Sweet Véronique, il doit être très tôt à Paris, j'espère ne pas te réveiller car il est très tard ici et je suis très fatiguée. Je voulais te dire simplement que je te considérais comme ma meilleure amie et que tu pouvais compter sur moi quoi qu'il arrive dans ta vie comme dans la mienne d'ailleurs, est réciproque. À mercredi, Françoise.
C'est une belle déclaration d'amitié.
Oui, et c'est tout. Elle est à New York, elle avait juste envie de lui dire ça, je trouve ça très beau. Alors là, elle dit « Sweet Véronique » parce que donc elle est aux États-Unis, mais parfois c'est « Mon vieux », ça se disait à l'époque, ou « Ploc », « Plic et Ploc », c'est comme ça qu'elle se surnommait, « Ploc c'est Véronique, Plic c'est Sagan », ou « Mon petit enfant », comme dans cette lettre qui commence par un texte tapé à la machine à écrire. « Mon petit enfant, j'ai une magnifique machine à écrire, je ne puis résister. 8-9-8-8, là elle a dérapé manifestement, elle écrit flûte entre parenthèses. « Je ne puis résister donc au désir de te montrer comme elle marche bien. »
Et elle parle de sa vie littéraire aussi ?
Oui, et on suit sa vie par ses lettres, comme dans celle-ci. On suppose qu'elle a vécu un moment douloureux et que son ami lui a envoyé une lettre pour la consoler. On suppose parce qu'on a que les lettres de Sagan, pas celles de son ami, elles ont été égarées. Et donc, écoutez, ça, c'est du pur Sagan. « Merci pour ta lettre qui m'a touché beaucoup. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi malheureuse que tous ces gens veulent le dire. Seulement, on dit toujours ça des gens qui vous échappent par quelque côté, préférant leur malheur à sa propre déception. »
Oui, on reconnaît le style, hein, en tout cas, Nicolas.
Oui, et la désinvolture aussi, l'absence d'esprit de sérieux qui fait qu'on aime Sagan, comme dans celle-ci. « Chère Véronique, comme je me préparais à t'envoyer une de ces longues lettres philosophiques qui t'eût fait croire à mon génie, le téléphone sonne. C'était Déon Michel, toujours aussi gentil et compréhensif, qui m'invite à faire un tour, etc. » Plus loin. « Après, il y a le cocktail Paul Morand et il est probable que je ne finirai cette lettre que dans l'ébriété. Je profite donc de mon état présent pour te dire que tu me manques bien. Les gens sont beaucoup moins intelligents que tu veux bien le croire, c'est surtout qu'ils ne sont jamais libres d'esprit, tu l'es. » Et elle termine par « Mon vieux, il faut que je parte à ce cocktail, coq, C-O-Q-U-E, la vie est longue, bonne année. » Et voilà, il y en a des dizaines, c'est savoureux, drôle ou mélancolique, ou les deux en même temps, c'est une sorte d'autobiographie si on veut, en très court, et avec une belle préface d'Olivia de Lamberterie.
« Écris-moi vite et longuement », donc voilà comment s'appelle ce livre de Françoise Sagan chez Stock. Merci Nicolas Carreau.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
L'info vite et rapidement avec Alban Le Prince.
9e allocution depuis le début de la crise Covid pour Emmanuel Macron ce soir à 20h à suivre en direct sur Europe 1. Le chef de l'État devrait faire des annonces sur l'épidémie mais aussi sur l'économie et les réformes, notamment des retraites. Thomas Pesquet, extrait de la capsule Dragon avec ses trois coéquipiers. Ils ont regagné la Terre ce matin à 4h33 très précisément et ont été récupérés par un bateau posté à proximité. L'astronaute français doit maintenant subir de rapides test avant de s'envoler pour Cologne en Allemagne. Enquête ouverte pour tentative d'assassinat sur fonctionnaire de la police nationale, annonce hier soir du procureur de Grasse. Suite à l'agression au couteau d'un équipage de police à Cannes, le procureur confirme qu'il s'agit d'un ressortissant algérien de 37 ans.
Europe Matin. On va maintenant au plus près de chez vous avec vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Bruno Dumortier.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de l'Est Éclair, où l'on découvre ce matin un article sur une entreprise textile qui a la fibre environnementale. Racontez-nous.
Eh oui, Bugis, c'est à Troyes. Hein. C'est une entreprise qui fait de la maille. La maille, c'est le tissu qu'on retrouve dans le t-shirt. C'est du tissu qui est tricoté à partir de fibres de coton. C'est un peu les derniers des Mohicans. Il n'y en a plus beaucoup des tricoteurs ici. Tout a été emporté par la mondialisation. Et eux, ils se sont spécialisés dans les tissus techniques à l'origine. Alors, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et là, depuis que le repreneur Bruno Nahan est revenu aux commandes, ils veulent se spécialiser dans la fibre environnementale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent travailler des fibres qui soient biosourcées. Alors, ils vont chercher des cotons qui sont bio, ils vont chercher des cotons dont ils sont certains de l'origine aux États-Unis, au Brésil, en Grèce. Et surtout, ils veulent travailler la fibre de façon la plus propre possible.
Ils misent également aussi beaucoup sur le coton recyclé issu de vêtements en fin de vie ou tout simplement qui n'ont jamais été vendus.
L'idée, c'est que sur une collection, vous avez un tiers des vêtements qui va finir en solde, 15 à 20% qui vont finir à la poubelle. Et tout ça, si on les recycle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des entreprises spécialisées qui vont arracher les vêtements, qui vont recycler la fibre et en faire de la fibre nouvelle, qui peut être utilisée avec du coton, oui, tout à fait issu des champs. Et à partir de là, on peut faire un vêtement avec 50% de fibres recyclées. Et Bugis peut tricoter cette fibre. Alors, ce qui oblige à des adaptations, parce que sur les métiers, ce n'est pas tout à fait la même qualité. Il faut prévoir ça. Mais là, c'est les techniciens qui parlent. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à proposer ça pour les gens de la mode, mais aussi les gens du bâtiment qui utilisent des tissus, que ce soit dans des divers usages qu'on peut utiliser, qui sont techniques. Et donc, d'arriver à des produits qui ont une haute valeur environnementale pour contrer la concurrence chinoise.
Alors ça, c'est très bon pour la planète, vous venez de le dire. Ça l'est en revanche un peu moins pour le porte-monnaie parce qu'évidemment, ces textiles de très grande qualité, ça coûte plus cher.
Eh oui, ça coûte 30% plus cher que les produits faits en Turquie, hein, qui sont les produits, on va dire, quasiment premium qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Et c'est 80 à 100% plus cher que les produits qui arrivent du grand export, hein, le Pakistan, la Chine et ailleurs. Alors c'est cher. En même temps, faut bien voir que la fibre de coton, le tissu dans la confection, c'est pas toujours le plus cher hein, sur un poste. Si on regarde bien, c'est ce que disent ici tous les fabricants de textiles qui sont toujours sur la place. C'est que pour quelques euros de plus, sur un vêtement qui va être vendu 70-80 euros, on peut acheter français, on peut acheter biosourcé. Le prix d'un vêtement, c'est souvent le marketing, bien plus que la fibre à l'origine.
Et c'est pour tous ces efforts que met en place cette société, Bugis, donc Yannick Jadot, le candidat des Verts, a visité l'entreprise la semaine dernière.
Oui, tout à fait. Yannick Jadot est venu dans l'Aube, là, visiter Bugis pour voir ce qu'il faisait pour l'environnement. Il a aussi visité la Sotratex, hein, qui est la teinturie, qui est aussi une teinturie indépendante, qui travaille le tissu de Bugis, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais les teinturiers, c'est une maille importante dans le tissu. C'est aussi une grande source de pollution, et aujourd'hui, les teinturiers français sont de moins en moins nombreux. À Troyes, il n'y en a plus que deux qui sont indépendants. C'est important dans le bilan d'un vêtement que la teinture, le rôle que joue la teinture en quantité d'eau, surtout en quantité de produits chimiques qui sont relargués dans l'environnement. En France, c'est suivi. À l'étranger, ça l'est beaucoup moins. Et malheureusement, on porte 97% des vêtements qui sont vendus en France viennent de l'étranger.
C'est pour ça qu'il faut prendre soin des quelques entreprises qui restent sur notre territoire. Merci beaucoup, Bruno Dumortier, de nous avoir fait découvrir cet article à lire donc aujourd'hui dans l'Est Éclair. Très bonne journée.
Merci, à bientôt.
Très bon réveil à tous, il est 6h. Le pouce levé de Thomas Pesquet, harnaché dans sa capsule au large de la Floride. L'astronaute français est rentré sur Terre cette nuit. Alors comment s'est passé le vol retour? Nous retrouverons notre correspondant aux États-Unis dès le début de ce journal. Faut-il convaincre ou contraindre les Français à recevoir leur troisième dose de vaccin anti-Covid? Le dilemme d'Emmanuel Macron qui prend la parole ce soir face à la reprise de l'épidémie. Et puis l'effervescence à l'embarquement des premiers vols vers les États-Unis. Après 20 mois d'attente, les frontières américaines ont rouvert hier. Reportage à venir à l'aéroport de Roissy, près de Paris.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 4h33, heure française, un timing respecté à la minute. La capsule de Thomas Pesquet s'est posée sur les eaux du Golfe du Mexique après 8 heures de voyage et 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Un retour sur Terre que vous vivez en direct depuis 5 heures sur Europe 1, grâce à vous Alexis Guilleux, notre correspondant aux États-Unis. Alexis, ce vol, c'est une opération réussie, certes, mais délicate aussi, et Thomas Pesquet a mis quelques minutes à sortir de la capsule.
Oui, et c'était attendu. Il a d'abord fallu que la capsule refroidisse. Elle venait de traverser l'atmosphère à plusieurs milliers de degrés. Élitreillée sur un navire, les équipes de secours ont pu ouvrir la trappe de cette capsule pour discuter avec les astronautes, les aider à sortir ensuite les uns après les autres et les évacuer sur des brancards. Les astronautes de retour sur Terre sont écrasés par le poids de la gravité. Thomas Pesquet a quitté en dernier cette capsule Dragon. On l'a vu sourire, faire des signes de la main à ses secouristes. Alors le Français a été bien occupé pendant la première partie de cette descente. Une fois que la capsule s'est éloignée de la Station Spatiale Internationale, elle a tourné autour de l'ISS pendant un peu plus d'une heure. Et Thomas Pesquet a été chargé de prendre des photos. Il avait retiré pour cela son scaphandre blanc pour pouvoir se déplacer plus facilement. Tous ces clichés de l'ISS permettront peut-être de détecter des points sensibles ou des zones abîmées de la station spatiale, et ils seront bien entendu précieux dans les années à venir pour la NASA et les autres agences spatiales.
Merci beaucoup Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et Alexis, on vous retrouve dans une petite demi-heure dans le journal de 6h30 pour suivre la prochaine étape du retour de Thomas Pesquet sur Terre. Après de rapides tests médicaux au Texas, le Français s'envolera ensuite vers Cologne, en Allemagne, direction le centre européen des astronautes.
L'Allemagne qui enregistre un taux d'incidence record face à la reprise de l'épidémie de Covid. Cette cinquième vague, l'Europe entière peine à l'endiguer. Le continent compte plus de la moitié des nouveaux cas d'infection dans le monde.
En France aussi, l'épidémie de Covid repart et Emmanuel Macron reprend la parole ce soir. Une allocution à suivre dès 20h sur Europe 1, la 9e depuis le début de la crise sanitaire. Afsane Essaboui, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. En France, doit-on aussi s'inquiéter face à la progression de l'épidémie ?
En fait, oui et non. Oui, parce que la circulation du virus repart clairement à la hausse. En fin de semaine dernière, on a atteint un taux d'incidence de 69 cas pour 100 000 habitants. C'est presque le double d'il y a un mois. Avec évidemment des situations très différentes selon les départements, mais par exemple les contaminations flambent en Guyane, en Lozère, en Haute-Corse ou dans la Creuse. Après, ce qui est rassurant, c'est le taux de vaccination. Les trois quarts des Français sont vaccinés, selon les derniers chiffres du ministère. Or, à l'hôpital en ce moment et en réanimation, il y a très très majoritairement des non-vaccinés et quelques personnes à risque qui n'avaient pas encore fait leur troisième dose et qui du coup n'avaient plus la protection immunitaire suffisante.
Alors le problème, Afsane, c'est que cette campagne de rappel peine à décoller. Ce soir, Emmanuel Macron pourrait même imposer cette troisième dose aux plus fragiles et même à toute la population.
Alors écoutez, pour les spécialistes, il y a vraiment deux choses beaucoup plus urgentes à faire. D'abord, vacciner les 500 000 personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas encore reçu la moindre dose, alors qu'elles sont particulièrement exposées aux formes graves du Covid. Et la deuxième priorité, c'est la troisième dose pour toutes les personnes à risque. Pour le moment, seule une sur deux a fait son rappel, essentiellement les seniors et assez peu parmi les moins de 65 ans avec des facteurs de risque. Après, pour tous les adultes en bonne santé, l'hypothèse d'une troisième dose n'est pas du tout exclue. Un avis de la Haute Autorité de Santé est attendu sur la question début décembre. Il reste notamment une question à trancher. Quand on est un adulte avec des défenses immunitaires efficaces, pendant combien de temps est-ce qu'on est suffisamment protégé par le vaccin avant d'avoir besoin de rebooster son immunité avec cette fameuse troisième dose ?
Merci Afsane Essaboui, spécialiste santé d'Europe 1.
Et des tacles, cela aurait pu être le titre du débat des candidats à l'investiture LR organisé hier soir. Objectif pour les 5 prétendants, ne pas compromettre l'unité du parti tout en marquant sa différence.
Un premier débat avec une cible, Michel Barnier, considéré en interne comme le favori. Valérie Pécresse en a fait son principal adversaire, notamment sur la question des fonctionnaires. Si elle est élue présidente de la République, la présidente de la région Île-de-France avait promis la suppression de 150 000 postes. Une erreur pour Michel Barnier.
Derrière ces chiffres qu'on annonce, 200 000, 250 000, il y a des hommes et des femmes
qu'il faut respecter. On ne fera pas la réforme de l'État contre les fonctionnaires.
Ce qu'on ne dit pas avant, on ne le fera pas après. Si on les a faites sous Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'on s'est obligé à le faire. Et on ne peut pas arriver devant les Français avec 2800 milliards de dettes et leur proposer que des nouvelles dépenses. On est obligé de dire où on va faire les économies.
Simplement éviter, Valérie, de dire trop de choses avant, trop précisément, et de ne pas les faire après.
Ce que j'ai dit, ce que j'allais faire avant, que j'ai réussi dans ma région à faire 2 milliards d'économies.
Prochain débat dimanche prochain, avant une autre soirée le 21 novembre diffusée sur Europe 1 et CNews.
Il n'y a pas que Thomas Pesquet qui a atterri ces dernières heures aux États-Unis, il y a aussi de nombreux touristes français.
Les frontières américaines fermées depuis 20 mois ont rouvert hier pour les voyageurs vaccinés et détenteurs d'un test anti-Covid négatif. À l'aéroport Charles de Gaulle près de Paris, ils étaient déjà nombreux à s'envoler pour New York. Le reportage de Nina Droff.
Dans la file d'attente du vol AF-738 à destination de New York, l'enthousiasme domine. Voilà des mois que les passagers attendent de pouvoir faire ce voyage, comme Bruno, français expatrié aux États-Unis.
J'ai attendu un an et demi. Je suis parti 15 jours et en fait, je suis resté un an et demi coincé en France.
Leïla, de son côté, rêvait de ses vacances new-yorkaises et floridiennes depuis 3 mois.
Quand il y a eu les annonces comme quoi tout allait s'ouvrir, on a sauté sur l'occasion pour se dire ok, on y va maintenant. Donc là, je suis trop contente et soulagée parce que je vais pouvoir partir.
Même sentiment pour Marawa qui espère oublier le Covid à l'ombre des buildings.
On est très contente, on a souffert ces derniers mois. C'est un soulagement de pouvoir partir, quoi. C'est le premier voyage après Covid pour le moment.
Une joie d'autant plus forte que les tarifs moyens des billets sont 12% inférieurs au prix d'avant-crise.
Le reportage de Nina Droff pour Europe 1.
C'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et l'équipe de France s'est retrouvée hier à Clairefontaine.
Oui, les Bleus préparent leur match contre le Kazakhstan et la Finlande, deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il leur suffit d'une victoire pour valider leur ticket pour le Qatar. Rien d'insurmontable au vu des adversaires, mais le sélectionneur Didier Deschamps, qui a connu la désillusion de 1993 contre la Bulgarie, se méfie. Écoutez.
Les joueurs qui sont là aujourd'hui, certains n'étaient pas nés. Mais voilà, juste avoir suffisamment de vigilance pour ne pas se croire qualifié avant de l'être. C'est toujours la leçon, c'est arrivé à d'autres. À titre personnel, évidemment, je l'ai payé aussi, mais que ça ne se répète pas.
Didier Deschamps en conférence de presse hier, le sélectionneur qui devra se passer de Paul Pogba blessé à la cuisse. Le joueur de l'AS Rome, Jordan Veretout, a été appelé en renfort.
Football toujours avec un match de gala ce soir.
Oui, chez les filles, cette fois, le PSG reçoit le Real Madrid. 16 000 personnes sont attendues au Parc des Princes pour ce choc entre les deux premiers de leur groupe de Ligue des Champions. Enfin, pour clore la page foot, le nouvel entraîneur du Barça, Xavi, a été présenté hier au Camp Nou. Plus de 10 000 socios étaient présents pour célébrer le retour de l'ancien maître à jouer du club catalan.
Déjà un abandon sur la Transat Jacques Vabre. Martin.
Oui, Louis Burton et David Baudard ont dématé la nuit dernière à bord de Bureau Vallée. Ils sont arrivés sains et saufs hier soir à Saint-Malo. Burton, troisième du dernier Vendée Globe, revient sur leur mésaventure.
On était, je pense, 18-19 nœuds, comme ça a cassé. Moi, j'étais dans le cockpit, David était à la nave. Il y a eu un premier bruit, ça ressemble à une explosion. En quelques dixièmes de seconde, on entend un choc sur le pont. Et donc là, on comprend que c'est pas un Floyd, un petit Floyd qui s'arrache, mais que c'est le mât qui est tombé.
Témoignage envoyé grâce à la radio de leur navire. Au classement ce matin, c'est toujours Armel Lecléache et Kevin Escoffier qui mènent la danse chez les ultimes, ces catamarans géants. Pour les monocoques, dit Imoca, c'est Charlie Dayen. Et Dalin, pardon, et Paul Meillat qui sont en tête.
Du tennis, en deux mots pour terminer.
Oui, avec le héros de Bercy, Hugo Gaston, qui entre en lice aujourd'hui au Masters Next Gen. Le tournoi réunit les 8 meilleurs joueurs de moins de 22 ans. Il affronte ce soir l'Américain Sébastien Corda.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Revenir sur Terre après 6 mois passés en orbite, ça aussi c'est du sport. C'est ce que vient de faire Thomas Pesquet en fin de retour sur le plancher des vaches. On en parle dans un instant avec l'astrophysicien François Forget. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11 et nous sommes en ligne, Julien, avec un astrophysicien, chercheur au CNRS.
Bonjour François Forget.
Bonjour.
Merci infiniment d'être en direct avec nous ce matin. L'attente fut longue, mais ça y est, Thomas Pesquet est bel et bien de retour sur Terre. Sa capsule à Améry, au large des côtes de la Floride, il y a un peu plus d'une heure et demie maintenant. Tout semble s'être déroulé parfaitement. C'est violent, éprouvant, ce retour dans l'atmosphère que vient de subir notre astronaute.
Oui, bien sûr, parce que tout le monde le sait un petit peu. C'est très dynamique, c'est un énorme freinage. On est secoué. En plus, la capsule On sait cette capsule-là utilise tout le temps ces petits moteurs. On paraît que ça fait un bruit d'animal, avaient dit les astronautes précédents. Et puis on se prend jusqu'à 4 ou 5 G, donc 4 ou 5 fois son poids. On atterrit dans l'eau. Bon là, le lac, l'eau était comme un lac très très calme. Et puis en plus, comme vous le savez, bah, ils viennent de passer plus de 6 mois en orbite, donc en apesanteur, et leur corps est affaibli.
Oui, il faut se réhabituer à la gravité. Et cela ne se fait pas en un claquement de doigts quand on a passé près de 200 jours en apesanteur, effectivement.
Oui, tout à fait. Vous avez à la fois la sensation de, enfin, les muscles qui sont affaiblis malgré le fait qu'ils fassent beaucoup d'exercices tous les jours pour maintenir certains muscles, mais tous les muscles ne peuvent pas être entretenus. Et puis aussi, vous avez le cerveau qui est un petit peu habitué à cette apesanteur, donc il y a une sensation d'extrême poids. La tête semble très lourde tout d'un coup, c'est ce que racontent tous les astronautes. Et donc cette tête semble-là doit être pris en compte. Et quand on arrive dans l'eau, s'il y avait eu des vagues, c'est pas le cas. Je crois que beaucoup d'astronautes sont un peu nauséeux.
Thomas Pesquet va d'ailleurs rapidement rentrer à Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes pour 3 semaines de remise en forme. Il n'y a pas un risque viral également, parce que j'imagine qu'après 6 mois dans une boîte de conserve à 400 km d'altitude, le système immunitaire est quelque peu affaibli au retour.
Ah, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on s'attend à ce que le fait qu'il ait été isolé avec toujours les mêmes personnes, sans aucun contact, ça affaiblit son système immunitaire, ça c'est vrai. Mais en plus, il semble, et finalement quand on y pense c'est assez étonnant, que la microgravité, le fait d'être en apesanteur, peut-être aussi les radiations, affaiblissent les défenses immunitaires. On voit que ça a un effet sur les globules blancs, là, les lymphocytes. Et c'est même un sujet d'étude depuis longtemps et qui est très actif en ce moment. Il y a une vraie question qui se pose. Alors, cela dit, aucun astronaute n'est jamais tombé malade là-haut. Et il n'y a pas eu de cas de contamination, d'infection sérieuse en rentrant. Donc, c'est pas si ça devrait aller.
Alors, tout ça, Thomas Pesquet l'a déjà vécu il y a 4 ans. C'est une franche réussite, cette deuxième mission dans l'espace ?
Oui, c'est ce qu'on entend partout. Tout le monde chante les louanges de Thomas et puis de tout l'équipage. Il y a eu beaucoup d'activités. Hein. Il y a eu des sorties extravéhiculaires, ils ont remplacé le système informatique à bord. Il y a énormément d'expériences qui ont été menées tambour battant.
Puis il y a eu quelques problèmes aussi. Oui, il y a eu quelques soucis techniques, l'ISS n'étant plus tout jeune désormais.
Elle est plus toute jeune, en effet, mais elle est beaucoup de soucis techniques viennent du fait qu'il y a une vraie maintenance. Encore une fois, je viens de dire qu'il y a eu un vrai travail pour changer le système informatique. Même sur Terre, c'est difficile. Et c'est ce que Thomas souligne, en tout cas. Et donc, on voit bien que elle est plus toute jeune, mais elle est vraiment maintenue. Ce qui vieillit, par contre, c'est la structure métallique elle-même, l'ensemble. Là, on peut rien faire. On subit à chaque orbite, du froid, du chaud. On a des petits impacts de micrométéorites et peu à peu, elle s'use, mais il y a un vrai devoir de travail de maintenance. Donc ça donne l'impression qu'elle tombe tout le temps en panne, mais en fait, la plupart du temps, c'est vraiment pour la garder bien en forme.
Avoir pris le commandement de la Station Spatiale Internationale, en être devenu en quelque sorte le patron ces dernières semaines, ça va changer quelque chose pour la suite de la carrière de Thomas Pesquet ?
On peut imaginer, ça fait bien sur le CV, ça fait partie de l'esprit de la Station Spatiale Internationale où ce n'est pas que les Américains et les Russes qui gouvernent. Juste avant lui, c'était Aki Oshide, qui était donc japonais, qui était le commandant. Mais enfin, quand même, il n'y a pas eu beaucoup d'Européens qui ont été commandants, c'est quand même formidable. Puis je crois entendre, pareil, que son travail, qui est subtil, hein, être commandant, ce n'est pas juste donner des ordres, dans l'occurrence, parce que beaucoup d'astronautes sont plus expérimentés que lui, même maintenant. Donc, c'est une coordination, et il faut prendre cette responsabilité, je crois que ça s'est très bien passé.
Donc c'est quoi la suite maintenant pour Thomas Pesquet ? C'est la Lune avec le programme Artemis de la NASA ?
Oui, d'autant plus que le programme Artemis n'est pas que la NASA. Il y a vraiment une forte implication de l'Agence spatiale européenne. Donc à ce titre, les astronautes européens devraient voler. Hein. Je dis ça parce que la Lune, c'est d'abord une petite station en orbite qui s'appellera le Lunar Gateway, et pour lequel l'Agence spatiale européenne, les Européens construisent un certain nombre de modules. Vous savez aussi que le vaisseau qui servira à aller là-bas, qui s'appelle le vaisseau Orion, le module de service est entièrement fabriqué en Europe. Donc il y a une vraie contribution. Et dans ce cadre-là, on devrait avoir jusqu'à astronautes. Ensuite, Thomas ira peut-être marcher sur la Lune, mais ça, c'est beaucoup moins clair, on ne sait pas trop. Et puis, je pourrais mentionner une petite possibilité aussi pour Thomas de revoler autrement sur la Station Spatiale Internationale, c'est peut-être avec les Chinois. Les Chinois ont une station en développement. Il y a des Chinois actuellement en orbite dans cette station qui sont partis le 15 octobre. Ils vont rajouter des modules dans quelques mois. Et donc, il y a une vraie opportunité. Je sais que Thomas apprend le mandarin, le chinois. Donc, peut-être que ce sera aussi ça, sa prochaine mission.
C'est décidé. décidément un homme extraordinaire. Merci beaucoup François Forget, astrophysicien, spécialiste de l'exploration spatiale et chercheur au CNRS. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin à quelques heures du retour donc de Thomas Pesquet sur la planète Terre. Bonne journée et à très bientôt.
Merci, au revoir.
6h17 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant, la partition d'Yves Montand.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 6h19, voici les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Les premières images de Thomas Pesquet à son retour sur Terre dévoilées par la NASA. L'astronaute français a été le dernier à sortir de la capsule Dragon, allongé sur un brancard. Avec ses trois collègues, ils ont atterri au large de la Floride à 4h33 précise, après un voyage de 6 mois à bord de l'ISS. Allocution à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 20h. Emmanuel Macron prend la parole ce soir. Le président pourrait annoncer des mesures sanitaires, notamment en raison du rebond de l'épidémie de Covid. Il devrait aussi faire des annonces sur l'économie et les réformes. Après une semaine de conférences à Lourdes, les évêques de France se sont engagés hier à indemniser les victimes de pédocriminalité dans l'Église. S'il le faut, ils vendront leurs biens immobiliers.
Votre partition, Omblin, pour conclure cette petite matinale. Il nous a quittés le 9 novembre 1991, presque 50 ans plus tôt. Yves Montand quittait Marseille pour tenter sa chance à Paris.
Nous sommes au cœur de l'été 1944. Julien, Paris s'apprête à être libéré. Une grande dame, Édith Piaf, se produit au Moulin Rouge. Pour sa première partie, elle auditionne ce jeune artiste de 22 ans, fraîchement débarqué, à l'accent chantant, le ventre pétri par le trac. Le cœur d'Édith Piaf chavire quand elle l'entend. Elle glisse à Yves Montand. Vous êtes formidable.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris.
Le coup de foudre entre Édith Piaf et Yves Montand est immédiat.
Oui, la chanteuse façonne ce jeune poulain dont elle est folle amoureuse. Elle le conseille, lui fait écrire des chansons, l'emmène partout avec elle. L'automne qui suit leur rencontre, c'est ensemble qu'ils partent en tournée. Édith Piaf est une femme de caractère. Elle n'a aucun mal à imposer Yves Montand dans ses spectacles. La chanteuse met surtout toute son énergie pour faire d'une vedette celui qu'elle appelle « ma petite gueule chérie ».
Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Au début de l'année 1945, Yves Montand se fait beau pour être présenté au Tout Paris.
Édith Piaf convie la presse dans l'actuelle Comédie Saint-Michel. Elle annonce que tous les deux vont se produire pendant un mois au Théâtre de l'Étoile. Édith Piaf en tête d'affiche, Yves Montand chantera juste avant. Les journalistes sont donc préparés à l'événement et comptent se déplacer en nombre. Le succès est au rendez-vous. Yves Montand est encensé, on le compare à Charles Trenet.
C'est une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais.
Inséparable, Yves Montand et Édith Piaf repartent sur les routes.
Leur amour est toujours aussi fort, il est son sale petit gosse à elle, elle est sa pupusse, c'est ainsi qu'elle signe ses lettres, mais désormais sur scène. Entre les deux, on ne saurait dire qui est la grande vedette. Yves Montand, l'amant, la création d'Édith Piaf, ne demande qu'à voler de ses propres ailes. S'il semble impossible que sur les affiches, les deux noms des artistes soient inscrits avec la même taille de caractère, la solution et qu'il fasse bande à part.
Édith Piaf le coach alors comme un champion.
Oui, retour au Théâtre de l'Étoile. La môme se produit du 14 septembre au 4 octobre 1945. Yves Montand prend le relais et chante seul le 5 octobre. Alors que leur histoire d'amour est en train de décliner, ce jour-là, lui devient officiellement celui qui monte.
C'est si bon,
oh, c'est si bon
de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous,
oh, c'est si
en chantant des chansons,
c'est si bon, oh, c'est si bon
de se dire des mots doux,
oh, c'est si bon
des petits riens du tout,
mmh, c'est si
mais qui en disent long,
si bon.
En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient.
chanté, c'est bon. De gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, cette petite sensation. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon.
Yves Montand avec « C'est si bon », il nous a quittés il y a exactement 30 ans. Nous célébrions il y a quelques jours le centenaire de sa naissance. À cette occasion, un tout nouveau coffret vient de sortir. Il rassemble presque 300 chansons d'Yves Montand.
Merci beaucoup, Ombline. C'est si bon et ça continue la suite de votre matinale dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée sur Europe 1.
On vous donne rendez-vous demain dès 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.